Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Alors, Genèse, chapitre 50 et le verset 15 jusqu'à la fin. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. » Vous parlerez ainsi à Joseph, ô pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les péchés des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes os loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans, on l'abhorma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Voilà l'histoire d'un homme qui s'appelle Joseph. Et en hébreu, savez-vous ce que veut dire Joseph? Il ajoutera. C'est un très beau nom, avec une situation, avec une signification, pardon, qui est tout à fait bien dans le cadre de ce que nous allons voir. Il ajoutera. Et nous avons lu quelques passages tout simples. Vous savez que Joseph a été le sauveur de tout le peuple des Hébreux qui était à mourir de faim en Canaan lors d'une famine terrible, épouvantable. Et les circonstances sont vraiment des circonstances, comment dire, rocambolesques ou des situations fantastiques. Et il y a Dieu qui sait faire des choses comme ça. Vous savez, j'ai toujours été frappé, un jour je lisais dans un livre, que Dieu a des idées de génie. Ouais. Même quand il y a le mal en place, même lorsque finalement tout nous semble perdu, eh bien je peux vous dire que le dernier mot revient toujours à Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et ça, je crois que ce sont les plus grandes choses qui nous émerveille de la part de Dieu. Ouais. Et nous voyons qu'à un moment donné, le père, le patriarche qui s'appelle Jacob, va mourir. Alors il a eu une vie un peu tumultueuse, hein, Jacob. Mais néanmoins, après avoir longtemps hésité, parce qu'il ne voulait pas croire à la vérité, il ne voulait pas croire à la bonne nouvelle que son fils Joseph, vendu par ses frères, on va en parler d'ici quelques instants, eh bien était encore vivant. Et qu'il était à la tête, à commander l'Égypte. Vous vous rendez compte, un hébreu qui commandait l'Empire d'Égypte. Alors, à un moment donné, il s'est résigné, il a dit, ben, j'y vais quand même. Et puis, ça a été finalement une décision qui a permis à tout le peuple donc fils de Jacob, Israël, eh bien, de venir se réfugier pendant un temps en Égypte. Et un temps qui était quand même assez long, hein, 430 ans, c'est quand même pas un temps seulement, c'est quand même des siècles. Et nous voyons qu'il va mourir, Jacob. Et il va laisser naturellement ses fils, entre autres Joseph, qui va être le superintendant, on pourrait dire le premier ministre, après Pharaon, pour diriger eh bien, ce pays immense et ce pays colossal. Mais il y a les frères qui sont là. Les frères qui l'avaient vendu des années auparavant, qui avaient traité Joseph d'une manière honteuse, d'une manière inimaginable, en le vendant, tout simplement. Et bien sûr, ils étaient rentrés en grâce, en quelque sorte. Mais là, ce chapitre 50 du livre de la Genèse est quand même assez pathétique, parce que, vous l'avez lu avec moi, il nous est dit que les frères de Joseph, après la mort de leur père, naturellement Israël, ils sont venus passer ce message. Ils se sont dit, mais si véritablement, eh bien, Joseph nous prenait en haine maintenant que le père n'est plus là. Vous savez, quelquefois, hein, les patriarches, les pères, ils tiennent encore la famille. Hein, parce que c'est une histoire de famille. Hein, comme dans toute la Bible. C'est toujours une histoire de famille qui tourne mal, naturellement, mais qui finit bien. Alors, ils se disent, mais s'il nous prenait en haine, et s'il nous rendait le mal que lui avons fait. Donc, il y avait bien des choses qui étaient arrangées. Hein, je crois qu'ils avaient déjà demandé pardon, mais ils se sont dit à ce moment-là, oh là là. Maintenant, on n'a plus de garantie, on n'a plus notre père au milieu de nous. Il est mort très vieux d'ailleurs. Et s'il lui venait à l'idée à Joseph, qui a tous les pouvoirs en Égypte, bien maintenant, de nous rendre le mal que nous lui avons fait. Donc, ils prenaient conscience qu'ils avaient fait du mal à leur frère. Ça, ils en étaient tout à fait conscients. Alors, ils vont envoyer une ambassade auprès de ce grand personnage qui est leur frère, maintenant devenu finalement au sommet de l'État. Et ils vont dire, mais tu pardonnes, écoutez bien, c'est pas n'importe quoi, tu pardonnes le crime, hein, tu pardonnes le crime de tes frères, parce que c'était véritablement une chose épouvantable qu'ils avaient fait. C'est comme s'ils l'avaient tué, hein. Et ils s'étaient aperçus que, bon, ben, il était toujours vivant, heureusement pour eux d'ailleurs. Et nous t'avons fait du mal, c'est un aveu, hein, naturellement. Alors ils vont plaider, et Joseph, hein, s'est mis à pleurer à ce moment-là. Il s'est mis à pleurer parce que dans son cœur, même s'il avait souffert, vous imaginez, on a pris Joseph, il avait à peu près 17 ans. On l'a vendu à une caravane de nomades, des Ismaélites. Il s'est retrouvé, lui, fils de maison, et bien tout simplement comme un malheureux esclave. Hein, c'était un adolescent à 17 ans et il va se retrouver là dans une situation épouvantable, séparé de son père, séparé de ses frères. Enfin, c'est eux qui avaient fait les choses naturellement. Et il va se retrouver comme là, eh bien, un vulgaire, tout simplement, vulgaire esclave. Et nous voyons que quand il va entendre ça, il va être saisi d'une profonde émotion et il va pleurer. Il va leur dire ce que nous avons lu tout à l'heure. Alors nous sommes vraiment tes serviteurs. Ah oui, nous sommes là, eh bien, à tes pieds en quelque sorte. Alors Joseph va les rassurer et il va leur dire, mais soyez sans crainte, car je ne suis pas à la place de Dieu pour tirer vengeance de ceci et cela, en voulant dire, eh bien, de toute façon, moi je vous ai pardonné, alors si c'est pardonné, c'est bien pardonné. On n'en parle plus, hein, naturellement. Et il dira cette fameuse parole que nous avons lue et que nous retenons, parce que c'est quand même une parole importante, mais il dira, mais vous avez médité de me faire du mal, mais vous savez que Dieu est tout puissant sur le mal, alors il l'a changé en bien. Et il a permis finalement qu'à travers des circonstances d'affliction terribles, affligeantes, eh bien c'est précisément dans le mal même que vous avez trouvé la vie. C'est curieux cela, hein. C'est parce que si vous ne m'aviez pas vendu, si je n'avais pas vécu tous ces outrages de votre part et cette humiliation pendant au moins 15 à 20 ans en prison, parce qu'il s'est retrouvé en prison le pauvre, hein. Connaissez l'histoire, je ne vais pas la raconter dans le détail. Eh bien, nous voyons que finalement, s'il n'avait pas passé par tout cela, les afflictions, finalement, sont déguisées en bénédictions. Hein, je voudrais quand même le dire au passage. Il faut le croire, ça. Hein. Et nous voyons que, au terme de tout cela, eh bien, il leur dira, mais si je n'avais pas vécu tout cela, aujourd'hui, vous seriez morts. Vous seriez morts de faim, parce qu'il n'y avait personne pour vous sauver. Et vous auriez eu, à ce moment-là, le châtiment de votre péché. Vous, vos femmes, vos enfants, toute la famille y serait passée. Mais voilà comment Dieu change les choses. Et ça, c'est intéressant. Alors il leur dira, soyez sans crainte, je vous entretiendrai, je vous donnerai tout ce que vous avez besoin, et vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Ce que je voudrais dire d'abord dans une première ligne, dans une première pensée, c'est que nous avons là, dans la personne de Joseph, ce que je disais, la signification de son nom, il ajoutera. Il ajoutera en bien. Il ajoutera en bénédiction. Vous savez que nous avons, dans le nom de Joseph, dans la vie de Joseph, un type de ce qu'est Christ. Eh oui. Regardez. Le pardon, la miséricorde, le salut de ses frères, le salut de sa famille, tout ce que vous pouvez trouver, finalement, dans une personne humaine qui s'appelle Joseph, eh bien, nous le voyons déjà, en préfiguration, c'est une typologie, on peut appeler ça comme ça, le type de Christ. Et Jésus a été tout cela, il a été infiniment cela, et il a été parfaitement cela, ce que Joseph ne restait qu'un homme, de toute manière. Alors ça, c'est intéressant, parce que c'est quand même quelque chose qui annonçait dans la vie de Joseph, prophétiquement, celui qui viendrait, longtemps, longtemps après, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, le serviteur de l'Éternel, Jésus, le sauveur des hommes, le rédempteur de toute l'humanité et le Messie pour les Juifs. Et ça, c'était dans la personne de Joseph, à travers ses afflictions, à travers son humiliation, à travers son élévation, parce que Christ a été humilié, mais il était glorifié, parce qu'il a payé le prix. Joseph n'a pas été crucifié, certes. Mais vous allez voir qu'il y a aussi une idée que j'aimerais développer devant vous. C'est une forme de résurrection que vous allez voir, que vous allez comprendre lorsque nous avons lu la dernière partie de notre paragraphe que je vous relis. Il est dit ceci, « Mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » C'est venu 400 ans plus tard avec un homme suscité par Dieu qui s'appelle Moïse. Pour refaire un peu l'histoire, Moïse. Donc, c'est une parole donnée, c'est une parole que Dieu va accomplir. Il y avait un temps d'attente, un temps de souffrance pour le peuple d'Israël, mais, encore une fois de plus, l'affliction allait se changer dans une réalisation parfaite du plan de Dieu. Faire un peuple qui soit le propre de Dieu, qui soit en quelque sorte le peuple élu, le peuple qui servirait Dieu. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes os d'ici ». C'est important. Quand il est question des os, c'est qu'il n'y a plus la vie. On est d'accord. Joseph mourut, âgé de 110 ans, ce qui n'est quand même pas mal. On l'embauma à la méthode, à la manière de l'Égypte. On ne l'a pas mis dans une pyramide. Mais on l'a mis dans un cercueil en Égypte. Et c'est là-dessus que j'aimerais attirer votre attention. Pour dire tout d'abord que le livre de la Genèse est le livre de la révélation de la vie par le fait de la création. Dieu a créé en haut, en bas. Il a créé les plantes, il a créé les animaux, il a créé l'homme. Donc c'est la révélation de la vie. Et c'est offert à notre foi naturellement. Et ce même livre de la Genèse qui nous dit ceci se termine par, je dis bien le livre de la Genèse se termine par un tombeau. Vous suivez ? Dieu a créé, chapitre 1, chapitre 2, la chute, toutes les conséquences de la chute, tout ce que nous pouvons lire à travers les 50 chapitres, enfin les 48, puisque si on est 20, c'est les deux premiers de la création, vous avez 50 chapitres. Et vous avez vu le dernier mot qui apparaît. Il est question d'un cercueil en Égypte. Ça se termine là-dessus. Ça se terminerait, et on n'aurait que la Bible qui se terminerait sur ce mot « un cercueil en Égypte », il y aurait de quoi désespérer. Ben oui. C'est l'histoire du monde qui est représentée devant nous. Pour beaucoup d'hommes, Joseph ou pas, pour beaucoup d'hommes, ça se termine dans un cercueil. Peut-être pas en Égypte, mais c'est quand même en Égypte, parce que l'Égypte est le type même du monde. Du monde. Un monde frappé par la mort. Un monde qui est touché par le péché. Qui est touché par le mal. Un monde de désastre. Un monde de guerre. Un monde de sang. Un monde, tout ce que vous pouvez imaginer. Enfin, c'est même pas la peine d'imaginer, on est dedans. Pas la peine d'aller plus loin. On est dedans. Un tombeau. Et je dirais, un tombeau ou un cercueil pour une humanité avortée. On ne peut pas dire mieux. On ne peut pas dire autrement. Puisque on sait très bien que 48 chapitres auparavant, on a vu la mise à mort de l'humanité. On a vu l'avortement de l'homme. Ça, c'est clair. Alors, on a ouvert le livre de la Genèse. Je dis une note sur le livre de l'Apocalypse. Autant le livre de la Genèse, c'est l'humanité, c'est la chair, c'est la dégradation, c'est la corruption, c'est tout ce que vous voulez, le livre de l'Apocalypse, lui, se referme sur le retour à la vie. C'est formidable, la Bible. Pour celui qui suit le fil rouge, celui qui tient la corde du début jusqu'à la fin, c'est extraordinaire, parce qu'il se referme sur le retour à la vie à travers deux faits. L'arbre de vie, qui avait été condamné, qui avait été caché à l'homme, qui avait été défendu à l'homme au début, va se retrouver à la fin, celui qui se trouve offert à l'humanité. Et il est parlé également dans le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, comme une invitation, vous qui avez soif, venez prendre l'eau de la vie. Donc, la mort au début, la vie à la fin. Et Jésus de nous dire, oui, je viens bientôt. Le second Joseph nous dit, je viens bientôt. On en parlait ce matin. L'Égypte, historiquement, c'est vraiment la terre des tombeaux. Puis, bien, on appelle ça des pyramides. Mais vous le savez. Juste avant de mourir, Joseph va demander à ses frères de ne pas rester en Égypte après sa mort. Ouais. Aujourd'hui, pudiquement, on appellerait ça une exhumation. Voilà. Mais il dit, moi, je ne veux pas mourir ici. Enfin, il est mort là, mais je ne veux pas que mes restes, je ne veux pas que mes os, précisément, restent là. Je relis quand même ce verset 25 parce que il a fait jurer donc à ses frères, Dieu vous visitera, c'est une promesse. Dieu n'abandonne pas et n'oublie jamais. Et il vous fera remonter et vous ferez remonter mes os loin d'ici. C'est comme si Joseph nous disait, c'est pas mon pays. Cette terre n'est pas ma terre. Et lui-même est en train de nous montrer le chemin que, comme le dira un apôtre dans le Nouveau Testament, que pour ceux qui croient, nous sommes tous des voyageurs et des étrangers sur cette terre. N'est-ce pas? Oui. Et que quelque part, nous chrétiens, si nous mourons dans le Seigneur, nous mourons dans la foi, nous mourons avec une espérance, nous avons saisi quelque chose au fond de notre cœur qui est plus fort que le visible, que ce monde qui est autour de nous, parce que nous croyons qu'il y a une autre dimension. Alors, notre chair, nos os, ça n'a plus une grande importance parce que nous ne vouons pas un culte au corps. Ça n'a pas d'importance. Tout ça, c'est une enveloppe et c'est un véhicule pour un temps. Mais il y a quelque chose de plus important. Et Joseph avait pressenti que sa foi en Dieu l'amenait à une autre dimension, à regarder d'autres horizons, à regarder vers le haut, à regarder la lumière. Oui, la lumière. Avant d'aller plus loin et de nous remémorer un petit peu les tribulations de Joseph, qu'est-ce qu'un cercueil et qu'est-ce qu'un tombeau? Ouais. C'est pas quelque chose qui fait plaisir. Non, parce que bon, il y a quelque chose qui est même répugnant, parce que vous savez, la mort, c'est quelque chose qui choque. La pensée, l'esprit, c'est rebutant même. Je sais pas, c'est viscéral, c'est normal, je crois. C'est normal parce que bon, c'est comme si l'homme pressentait qu'il n'était pas fait pour mourir. Quelque part, mais c'est vrai. Il y a quelque chose au fond de nous-mêmes, comme le dira le livre de l'Ecclésiaste, Dieu a mis dans le corps de l'homme la pensée de l'éternité. Donc, il y a bien quelque chose. Alors, qu'est-ce que veut dire le mot éternité? Et pourtant, eh bien là, Joseph va être enfermé dans un cercueil. Et le cercueil, si on peut donner l'explication, c'est là où le corps est prisonnier. Alors, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, il n'en sortira pas. Parce que quand on est mort, on est mort. Mais c'est comme une prison. C'est comme quelque chose dans lequel on est enfermé. D'ailleurs, c'est très étroit. Hein. Voilà. C'est pas autrement. Hein. C'est donc une prison. Il faut le voir dans cette. Et nous savons que la Bible nous dit que l'Égypte est le type même du pays de la servitude et de la mort, où les gens sont opprimés, où les gens sont écrasés, où les gens sont piétinés, où là, eh bien, ils sont dans une vie, une existence, plutôt, c'est pas la vie, hein, mais dans la servilité. Et l'aboutissement de tout ça, c'est la mort, parce qu'on frappait, on tuait. On n'avait aucune pitié, aucune justice, parce que pour un esclave, ça ne compte pas. Hein. L'esclave n'est pas un homme, c'est un sous-homme, si ce n'est pas encore moins que le soud. Voilà, c'est ça. Et quand on va voir maintenant l'histoire de Joseph, vous allez voir quelle ascension Dieu fait prendre aux hommes. Oui, quelle ascension. Et il va souvent nous chercher bien bas pour nous emmener très haut. Et vaut mieux commencer en bas que de partir du haut, parce que ça ne peut aller que vers le bas, après, quand vous êtes en haut. Humainement parlant, je pense. Hein. Sans espérance et sans espoir. Voilà. Alors, je vais vous dire en deux mots, et je l'ai dit et je le répète, l'histoire de Joseph, celui qui ajoutera, eh bien c'est vraiment ce qu'il a fait. Il a ajouté dans son monde, dans son temps, pour ses frères, pour la nation d'Israël, il a ajouté quelque chose qui était impensable et inimaginable. Ouais. On aurait pensé que tout était fini. Mais non, au contraire, c'est quelque chose qui est ajouté. La grâce de Dieu, je dis bien la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'attention de Dieu, la manière dont Dieu va porter ce peuple au creux de ses mains et vivant du miracle en permanence pendant 40 ans, ça a été ça. Hein. Puis après, dans le pays de Canaan, c'était aussi quelque chose, une véritable bénédiction. De partir de l'étroit pour aller véritablement des grands espaces. Ça s'appelle Rehoboth en hébreu. Rehoboth, mise au large. Alors, pour revenir à notre... celui qui ajoutera à Joseph, il était le fils préféré de son père, Jacob, Israël, si vous voulez. Et vous savez, je voudrais préciser, il ne faut jamais avoir de préférence. Parce que quand on a des préférences en tant que parent, on va faire le malheur de celui que nous préférons. Dans la Bible, au chapitre 27, il nous est dit que Israël, donc Jacob, aimait Ésaü, le frère de Joseph, et que Rebecca aimait, finalement, non, Jacob, oui, c'est ça. Hein. Oui, je me suis trompé, hein, c'était Ésaü, hein, voilà, parce que je suis d'une génération, enfin, j'ai sauté une génération, voilà, exactement. Enfin, vous avez rectifié de vous-même. Donc, il était le fils préféré de son père, et son père avait fait une chose qu'il n'aurait jamais fallu faire parmi ses autres frères, c'est que pour son petit préféré, eh bien là, Joseph, il lui avait confectionné une belle robe. Une belle tunique de plusieurs couleurs. Alors les autres, quand ils ont vu ça, se sont dit, mais c'est quand même pas normal, nous on est habillés, hein, comme ça. Mais comment se fait-il que... Et ça crée une jalousie mortelle chez ses frères. Et de ce fait, il lui avait fait donc une robe de distinction, il l'avait déjà élevée. Et pour arranger les affaires, c'est que il avait eu des visions aussi, Joseph. Il avait vu un petit peu les choses qui allaient se passer. Hein, vous savez, la vision des étoiles, la vision de ce qu'il y avait également, toutes sortes de choses, hein, je ne me souviens plus. Pardon ? Les gerbes, voilà, exactement. Hein. Alors, déjà la robe, ensuite les visions, et puis cette préférence de son père, je peux vous dire que ses frères, ça les a rendus jaloux, mais alors, à le tuer. Et c'est ce qui va se passer. Enfin, en tous les cas, il y a une tentative. Et là, à ce moment-là, à un moment donné, ils vont le saisir alors qu'il est seul. Et ils vont vouloir le tuer, mais deux. Je crois qu'il y a Ruben et puis il y a également un autre qui vont dire « Non, non, c'est notre frère, c'est notre sang. Laissons-lui la vie. Faisons croire qu'il est mort. » Et ils ont fait tout un simulacre d'assassinat en égorgeant un bouc. Non, mais les idées... Et prendre la robe, la belle robe à plusieurs teintures, elle a été reteintée. En rouge, et on a dit, et les frères, mais ils manquaient pas de souffle, hein, ils sont venus voir leur père en disant, oh, nous sommes désolés, la bande d'hypocrites, nous sommes désolés, ton fils que tu préfères, ton fils que tu aimes, eh bien voilà, nous avons retrouvé sa tunique, elle est maculée de sang parce qu'une bête sauvage l'a écorchée, l'a dévorée, voilà. Et vous savez que Jacob, va le croire et il va pleurer pendant des décennies, son fils, qu'il croit mort. Mais pendant ce temps-là, les frères, ils vont le vendre, je l'ai dit tout à l'heure, à des Ismaélites qui vont l'emmener en Égypte comme esclave, tout simplement. Alors, tout ça, c'est des histoires de famille. Mais je le dis et je le répète, que d'histoires de famille dans la Bible. Alors, pour un temps, il va être écarté, il va être jeté. Et on comprend, si on fait la comparaison avec Ésaïe 52 et 53, en ce qui concerne toujours, une préfiguration de Christ. Il était méprisé. On l'a tenu comme un rejeton. On l'a, en effet, humilié. On a fait ceci, on a fait cela. On revient toujours à cette notion de typologie. Et pourtant, Joseph, tout jeune homme qu'il était, avait gardé la foi dans son cœur, dans le Dieu de son père, Jacob. Et il a vécu cette affliction, il a vécu cette humiliation terriblement, mais au lieu de se révolter, eh bien, il faisait du bien partout où il passait. Alors, il a eu différentes fortunes, hein. Il a eu différentes rencontres, ça c'est sûr, dans la maison de Potiphar, vous connaissez un petit peu, hein. Et même dans la prison, parce qu'il va être enfermé pour des fautes qu'il n'a pas commises. Il a été accusé traîtreusement. Et il va se retrouver en prison, comme prisonnier, et à un moment donné, il va devenir le directeur de la prison, dites donc. Ça vous fait sourire, mais c'est comme ça, hein. Parce qu'il fait du bien. Et il va être remarqué, et on va lui laisser tout le pouvoir de la gestion de la maison d'arrêt. C'est formidable. Il va résister aux tentations, parce qu'il va en avoir. Ça, c'est certain. Et Dieu le bénit. La main de Dieu ne se voit pas directement. Mais il y a toujours par-ci, par-là, un verset qui nous dit que Dieu était avec lui, que Dieu l'accompagnait dans ses afflictions et dans son épreuve, et il le bénissait. Et même à un moment donné, il nous y dit que Dieu le faisait réussir dans tout ce qu'il faisait. Il bénissait ses mains. Voilà. Et ça, c'est le texte qui nous le rapporte. Dieu le bénit dans ses épreuves, jusqu'au jour. Il va avoir, longtemps après les premières, des révélations surnaturelles. Les chansons et le panetier. Alors, je ne rentre pas dans les détails, vous relirez ça dans le livre de la Genèse, c'est très intéressant. Et à ce moment-là, ça va remonter jusqu'à Pharaon. Ouais. Et par un concours de circonstances permis par Dieu, il va se retrouver, parce qu'on a trouvé en lui une sagesse, on a trouvé en lui une intelligence qui n'est pas l'intelligence des hommes. Il va se retrouver à la tête de l'Empire d'Égypte comme le premier ministre de l'Empire, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, vous avez vu un peu le parcours ? Formidable. Il va se retrouver, lui le dernier, il se retrouve le premier. Je reviens à mon cercueil en Égypte. Oui. Vous savez, pour ceux qui sont sans espérance, ils disent « Mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. » Point final, rien du tout. Plus rien après. Dans la Bible, nous apprenons une autre leçon. Qu'après la mort, ce n'est pas un point final. C'est souvent un point d'interrogation pour les incroyants et les athées. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'après la mort, point de suspension. Vous savez ce que ça veut dire, suspension ? Il y a quelque chose là. Et quand Joseph a dit « Je ne veux pas que mes os demeurent dans ce pays-ci, vous ferez remonter mon cercueil hors d'Égypte », c'est que lui, il était au fond de son cœur, dans la foi, en suspension. Il attendait autre chose. Et c'est bien le grand message, et c'est bien le beau message de la Bible, et particulièrement de l'Évangile, pour tous ceux qui croient. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a un homme, je voudrais vous en dire deux mots, il s'appelle Job, il a eu une vie toute rose. Aucun problème, aucune difficulté, tout le monde était autour de lui, ses enfants, ses amis, sa femme, un délice. Vous connaissez Job ? On dit pauvre comme Job. Ouais. Alors, qui veut être candidat à prendre la place de Job ? Il n'y a pas beaucoup de mains qui vont se lever. Hein. Ouais. Le pauvre Job, le pauvre Joseph, et les pauvres de cette terre, mais qui sont riches dans la foi, qui sont véritablement des riches aux yeux de Dieu. Écoutez, il a écrit ceci parce que lui aussi c'était un croyant en suspension. Il ne voulait pas et il ne croyait pas qu'il finirait dans la terre. On finit dans la terre, mais on n'y reste pas. Ce que je suis, ce que vous êtes, ce que nous croyons, la force de nos convictions et de nos assurances en Jésus-Christ ne va pas nous laisser là. L'enveloppe sera déposée. Mais la véritable personne, la personnalité, l'identité morale et spirituelle, elle va autre part. Écoutez ce que nous dit Job, et ça c'est un des plus beaux textes de la Bible. J'aime bien le relire de temps en temps, je vais le relire avec vous. Chapitre 19, verset 23. Écoutez, et là c'est la force que quelque part, eh bien, le tombeau ne retient pas les enfants de Dieu. Comme celui qui nous a précédés n'est pas resté dans le tombeau. Vous savez ce qui s'est passé, ça n'a pas duré longtemps, 3 jours. Hein. Voilà, écoutez ce que nous dit Job. Et c'est formidable parce que ça a été écrit pour nous et c'est écrit depuis toujours. Il écrit et il dit « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites. » C'est fait, Job, rassure-toi. « Qu'elles soient écrites dans un livre, c'est le bon. Je voudrais qu'avec un burin de fer et du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. » Et il dit après « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Ça, c'est formidable parce que qui pouvait parler de résurrection à l'époque de Job ? Ça, c'était complètement inconnu. Job est un prophète. Joseph était un prophète. Et bien d'autres, dans l'histoire de la Bible. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il parle de rédemption, il parle de rachat, il parle de, finalement, sauver la vie. Et il se lèvera le dernier jour sur la terre. On y est presque. Où le Seigneur va se lever. Non, il va descendre du ciel. Pour venir chercher son Église, pour venir prendre ses rachetés, puisqu'il est question de rachat, de rédempteur, c'est le même mot. Et il ajoute ceci, « Mais quand ma peau sera détruite, il se lèvera. » Oh, il n'attendait pas la venue de Jésus qu'il ne connaissait pas. Hein. Il n'attendait pas quelque temps après sa mort, mais il parle du dernier jour. « Quand ma peau sera détruite, après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. » Ne trouvez pas que c'est quelque chose de formidable. Je verrai ta face, Seigneur. Il est dit dans un psaume que j'aime beaucoup, à mon réveil, je contemplerai ton image. Vous connaissez ça? Eh bien, c'est ce que nous allons vivre les uns les autres. C'est qu'à notre réveil, je ne sais pas, hein, si vous réveillez de bonne heure ou tard, mais toujours est-il qu'il y a un vrai réveil. Et là, à ce moment-là, nous contemplerons le Seigneur. Ouais. Et nous serons transformés à son image de gloire en gloire, nous dit l'apôtre Paul. Je le verrai, et il me sera favorable, parce que Dieu est favorable, non pas à ceux qui font des bonnes œuvres, à ceux qui mettent en avant leur religiosité ou leur propre justice, mais il me sera favorable, parce que j'ai mis toute ma confiance et ma foi en lui. Rien d'autre. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente de moi. On sent que ces prophètes, on sent que ces hommes de foi, il y avait quelque chose qui bouillonnait. C'est ce que nous dit Pierre dans son épître. On a salué de loin, on ne l'a pas vu, mais néanmoins il y a cette espérance. Et vous savez, il n'y a que l'espérance qui fait vivre. Hein. Un homme sans espérance est un homme mort. Vous direz alors, pourquoi le poursuivons-nous, etc., etc. C'est la suite, mais c'est pour dire... Mon âme languit d'attente de son retour. L'espérance de la résurrection. Voilà. Quand Joseph dit, on le mit dans un cercueil en Égypte, il n'y est pas resté. Parce qu'on peut s'imaginer que 430 ans plus tard, quand Moïse a pris la tête du peuple d'Israël, Joseph a suivi aussi, hein. On n'avait pas oublié ces paroles. Et Dieu s'était chargé, finalement, de donner dans la mémoire des générations qui allaient venir qu'il fallait, en remontant vers le pays où coule le lait et le miel, emmener aussi le tombeau, le cercueil de Joseph. Je suppose que ça s'est passé comme ça. Je suppose. On peut le supposer. Alors, mourir dans l'ignorance, mourir dans l'obscurantisme, mourir dans l'idolâtrie, et passer de tout cela à une vérité qui sauve. Écoutez, cette vérité, elle est formulée encore par Paul, parce que nous faisons tout simplement eh bien, des comparaisons avec ce que nous dit la Bible. Et Paul a un beau message quand il nous dit au chapitre 15 et au verset 1er, Il rappellera cela. Il dit, je vous rappelle, mes frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, c'est-à-dire une bonne nouvelle, dans lequel vous avez persévéré. Ils ont maintenu leur foi et pour lequel vous êtes sauvés, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain, naturellement. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il est apparu, etc., etc. Et on voit que le nombre des disciples commence à se former à ce moment-là, jusqu'à venir jusqu'à nous. Il y a eu des millions et des millions et des millions d'hommes et femmes qui ont cru à cette bonne nouvelle, et qui ont gardé cette bonne nouvelle. Vous savez qu'on n'est pas destiné à finir dans comme les autres. Ouais. Quand on voit la différence qu'il y a entre le comportement qu'un croyant peut avoir devant la mort et un homme sans espérance, c'est le jour et la nuit, c'est terrible. Hein, terrible. Quand nous vivons nous-mêmes dans nos propres familles un deuil, que nous sommes chrétiens, je ne suis pas là, je sais pas, avec des préjugés, mais de voir la tristesse de ceux qui n'ont pas d'espérance, mais c'est dramatique comment ils peuvent envisager la mort, c'est terrible, c'est affreux. Alors que la différence, eh bien, ce n'est qu'un au revoir. Ouais. Ce n'est qu'un au revoir. On se reverra dans une autre dimension. Nous avons deux familles sur cette terre. Nous avons la famille charnelle que nous aimons. C'est vrai que nous aimons parce que c'est nos racines. C'est ce que l'on est. Mais il y a une autre famille. Ce sont tous les frères et les sœurs en la foi. Ceux que je connais, ceux que je vois, vous et nous, qui partageons ensemble la vie, puis il y en a des millions et des millions qui sont autour de nous qu'on ne verra jamais, mais on les reconnaîtra là-bas. On les reconnaîtra par le fait même que ce sont des hommes et des femmes qui ont cru en Jésus-Christ et qui sont rachetés à cause du sacrifice de Jésus. Parce que comme dit Paul, quelqu'un a payé pour nous. Voilà. Quelqu'un a fait payer le prix. Alors ça nous amène tout simplement, avant de conclure, de l'incrédulité, du passage de l'incrédulité à la foi. Voilà. Et quand il est dit, si vous retenez l'évangile tel que je l'ai reçu, et nous prêchons l'évangile, pour qu'il fasse passer les hommes de l'incrédulité à la foi, de la prison, de la mort, à la liberté que procure la vie en Christ. Jean nous le dit dans un beau récit. Ce sont des lieux communs, hein, ce sont des textes que nous connaissons, mais néanmoins il est bon de les rappeler parce que vous êtes venus cet après-midi et je crois qu'il faut que nous partions fortifiés dans notre cœur, remplis de cette espérance, renouvelés. Écoutez, pourquoi y a-t-il dans l'évangile de Jean cette belle histoire de la résurrection de Lazare? Vous savez que lui, il n'est pas resté longtemps. Hein. Tout le monde pensait que finalement, ses sœurs, Marthe et Marie, qui ne le reverraient plus, ils ont même fait des reproches à Jésus, mais pourquoi n'étais-tu pas là? Parce que si tu avais été là, il ne serait pas mort. Mais oui, mais c'est ça justement. L'ambiguïté et l'incompréhension que nous avons de Dieu, c'est quelquefois Dieu se fait silencieux et se fait absent pour nous bénir encore davantage. Parce que si Jésus avait été là, il l'aurait guéri de sa maladie. Certainement. Mais là, il y a eu plus qu'une guérison. C'est une résurrection. Et à la face du monde. Alors, dans le chapitre 11 de Jean, au verset 38, il y a des belles paroles. Elles sont splendides. 38 à 44. Jésus, frémissant alors qu'il se trouve devant le tombeau, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre, et une pierre était placée devant, une forme de cercueil et de tombeau. Hein. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Mais Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Si tu crois. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, une belle prière qui devrait nous inspirer dans les nôtres, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. De ce que tu m'as exaucé. » On devrait toujours commencer nos prières pour dire « Mais je te remercie Seigneur, parce que je te demande, je crois que c'est dans ta volonté, et je te remercie parce que tu m'exauces. Alors je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas où, comment tu vas le faire, mais là ce n'est pas mon problème. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous verrez s'accomplir, servi au même. » Je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » La liberté. Il nous est dit, et ça c'est quand même assez étonnant, « Le mort sortit. » Donc c'était plus un mort, c'était un vivant. Mais un vrai vivant. Un vivant qui croit. Un vivant qui était porté par la foi. Parce que c'est ça, justement. Le terme de mort n'est pas approprié. Jésus nous dit cette chose. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et vous savez que la vérité de la parole de Dieu, ce que nous sommes en train de faire cet après-midi, c'est elle qui nous affranchira. De la peur, de la crainte, de la mort, comme nous dit le livre des Hébreux, je cite. Alors, du monde visible et mortel au monde invisible et éternel. J'aime bien cette histoire de Joseph qui donne ses ordres en disant « Moi, je ne veux pas rester dans ce pays-ci. » Je crois que nous avons besoin de demander encore et toujours au Seigneur que les gens comprennent que tant qu'ils resteront dans le pays d'Égypte, dans le pays de cette misère, de tout ce que nous connaissons, de tout ce que nous vivons, humainement parlant, dans tout ce qui est notre monde d'aujourd'hui, mais c'est une terre de mort, c'est une terre de servitude. Les gens se disent, nous sommes libres. Ça, c'est vraiment le cri qui monte des poitrines des jeunes et des moins jeunes en disant, mais nous avons la liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté? La liberté de s'asservir? La liberté de... Vous savez, les gens qui cherchent du travail aujourd'hui, ils n'ont pas la liberté. Hein? Ah, ils sont libres, ils n'ont rien à faire. Mais c'est pas la liberté. Les gens qui sont aux prises avec des addictions, l'alcool, la drogue et tout cela, disent « Je suis libre !» Mais ils ne savent pas, ils n'entendent pas les chaînes qui sont en train de traîner derrière eux. Les gens qui sont pétris de peur, parfois ça arrive aux chrétiens, alors vous n'avez pas à avoir peur, mais les gens qui vivent dans la peur de ceci, la peur de cela, peur de vivre, peur de mourir, peur de manquer, peur de ceci, il y a des gens qui ne vivent qu'avec ça, l'angoisse, l'anxiété, on n'a jamais vendu autant d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Vous croyez qu'ils sont libres ? Alors Jésus nous rappelle, mais la vérité vous affranchira. C'est elle qui nous rend véritablement libres. Alors on passe de ce monde, d'un monde dans l'autre. Je terminerai avec une parole de Jésus. Une avant-dernière parole, c'est dans Luc, chapitre 24. Alors on est dans l'Évangile, pour nous montrer que les hommes peuvent chercher longtemps autour d'un tombeau, quand la personne n'est plus dedans. Vous connaissez là? Vous voyez ce que je veux dire? Au chapitre 24 et au verset 5 et 6, ça c'est au tombeau, le tombeau de Jésus. Comme les femmes, elles ne savaient que penser de cela parce qu'il y avait eu quelque chose d'assez étonnant, extraordinaire, une visitation angélique. Au moment où Jésus est ressuscité, voici deux hommes leur apparurent, ce sont des anges, hein, en habits resplendissants, saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Ouais. Il n'est plus ici. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Et ce qui est terrible dans la constatation que nous pouvons faire dans notre monde, c'est que les gens sont pétris d'une culture morbide, d'une culture de mort. Regardez la religion, ce qu'elle fait autour de ça. On est même à sortir des morts de leur tombeau. Pour les... Je ne reviens pas sur des histoires récentes, mais quand même, c'est terrible ça. Hein, ouais. C'est véritablement le fond de l'âme humaine, et ça c'est terrible. De la mort à la vie, dans le processus naturel, humain, terrestre, de notre monde qui est un monde perdu, c'est de la vie à la mort. Il y a une logique naturelle. Mais avec l'Évangile, c'est exactement le contraire qui se produit. C'est de la mort à la vie. Et ça, c'est formidable. Et je crois que des hommes comme Job, comme Joseph, avaient ce sentiment qu'il y avait quelque chose d'autre. Qu'il y avait quelque chose de lumineux. Quelque chose de magnifique. Où là, eh bien, les pleurs, les malheurs et toutes les tristesses auront complètement et totalement disparu. Alors, Ça se résume tout simplement un cercueil en Égypte ou une place avec Jésus. Tout simplement. Et pour conclure, je prendrai l'épître de Jean et au chapitre 5 et verset 11 à 13, il nous est parlé justement de cette nature même de cette vie. Et comment Jean écrit les choses ? Il dit « Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. » Il nous a donné la vie éternelle, c'est un cadeau. Et que cette vie est dans son Fils, dans la foi en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, et ça demeure pour nous aujourd'hui, afin que vous sachiez, que vous croyiez, que vous soyez convaincus, persuadés, que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et voilà, l'affaire est faite. Tout est réglé. C'est tout simplement maintenant de savoir si nous ouvrons notre cœur ou non. Alors je sais qu'en ce qui vous concerne, votre cœur est largement et grandement ouvert au Seigneur et à la foi dans le Seigneur. Mais puissent tous ces hommes et ces femmes qui sont asservis à tous les travaux d'Égypte aujourd'hui, hein, qui sont dans les chaînes, en pensant qu'ils sont libres, en pensant que finalement, eh bien, la vie, on peut en faire ce que l'on veut. Eh bien, croyez bien que c'est pas ça du tout. Hein. C'est pas ça. Nous sommes appelés à sortir d'Égypte pour aller dans le pays céleste, là où coule, je dirais, oui, le lait et le miel. Mais ce ne sera pas du lait et du miel, ce sera encore beaucoup plus savoureux que le lait et le miel. C'est véritablement la joie, la paix, l'amour, la justice. Tous ces fruits qui viennent du ciel, qui sont les fruits de l'Esprit. Que Dieu nous donne l'amour de la vérité et l'Esprit de la vérité. Que Dieu nous donne sa grâce. On va prier quelques instants. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu as donné aux hommes une espérance vivante. Nous te remercions pour ces hommes qui ont traversé l'histoire. Oh, ils sont nombreux. Ils sont en effet des milliers, des millions même. Mais nous te remercions pour ces grandes figures telles que Joseph, dont le nom signifie « celui qui ajoutera ». Alors Seigneur, nous croyons qu'après un Joseph, tu as ajouté, Seigneur, une espérance que quelqu'un de plus grand, de plus puissant, quelqu'un de merveilleux viendrait après Joseph, qui a ajouté ce que la loi ne pouvait faire, parce que la loi condamne, mais la grâce absout, la grâce pardonne et la grâce sauve. Alors nous te bénissons et nous te remercions parce que tu nous as rappelé cet après-midi que nous sommes des êtres tripartites, nous avons un corps, une âme et un esprit. Et quand bien même cette dépouille mortelle est une enveloppe, abandonnée, Seigneur, à un moment ou à un autre de notre passage sur cette terre, nous croyons qu'il y a une âme vivante, un esprit de vie qui est destiné à l'éternité dans la gloire de Dieu. Tu nous bénis maintenant. Tu nous donnes d'être réconfortés, rassurés. Tu nous donnes, Seigneur, en effet, de vivre et déjà de nous préparer à cette autre dimension. Nous te bénissons et nous te remercions pour Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour la foi. Merci pour la vie, celle qui s'appelle la vie éternelle. Amen. Amen.